VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel de ce 22 août 2019. John Lyndon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. Au Soudan, Abdallah Hamdok prend les commandes de la primature. Parmi ses multiples défis, redresser une économie en crise. Préparatif pour le sommet du G7 à Biarritz en France, le Premier ministre britannique Boris Johnson fait sa première apparition avec en arrière-fond le Brexit. La Corée du Nord n'est pas intéressée à une reprise du dialogue avec les États-Unis. Pyongyang veut d'abord l'arrêt des activités militaires qu'elle juge hostiles. Les États-Unis commémorent l'arrivée il y a 400 ans des premiers esclaves noirs en Virginie, à leur colonie britannique. Nous en parlons avec Bagassi Koura dans un instant. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Abdallah Hamdok est le nouveau Premier ministre soudanais. Il a été investi hier à Khartoum. Cet économiste devra s'atteler à redresser un pays qui subit une crise économique sévère. Ekiabadou.
Abdallah Hamdok, né en 1958, a fait carrière dans des organisations internationales et régionales, notamment comme secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU à Addis Abeba. Il avait d'abord étudié l'économie agricole à Khartoum avant d'obtenir un master à Manchester en Grande-Bretagne. Il est originaire de Kordofan Sud, un état théâtre d'un conflit depuis plusieurs années entre rebelles et forces gouvernementales. Venant d'Addis Abeba, il n'a pas tardé à donner le ton à son mandat à son arrivée à Khartoum. Il a déclaré que les priorités du gouvernement seront d'arrêter la guerre, de construire une paix durable, de faire face à la sévère crise économique et de mettre en place une politique étrangère équilibrée. Souriant mais déterminé, il a assuré après sa prestation de serment « Avec la bonne vision et les bonnes politiques, nous pourrons affronter cette crise économique ». Enfin, Abdallah Hamdok a promis établir un programme d'urgence pour faire face aux pénuries des produits de base dont a récemment souffert le Soudan et ses 40 millions d'habitants.
Les autorités américaines annoncent ce jeudi avoir démantelé un vaste réseau international d'escrocs en majorité nigérian qui a dérobé des millions de dollars à des entreprises, des utilisateurs des sites de rencontres et des personnes âgées. Au total, 80 personnes sont inculpées dans cette affaire aux ramifications mondiales et 14 d'entre elles ont été arrêtées sur le territoire américain, principalement dans la région de Los Angeles. C'est ce que précise dans un communiqué le procureur fédéral pour la Californie centrale, Nick Hanna. Les autres suspects sont encore en liberté pour la plupart au Nigeria. Ouverture aujourd'hui à Kinshasa d'une table ronde pour examiner les modalités pratiques pour rendre gratuite l'éducation de base dans les écoles publiques dès la rentrée scolaire prochaine. Des millions d'enfants pauvres sont privés d'éducation en RDC. Eric Manirakiza.
Prévue jusqu'à samedi, cette table ronde doit étudier le financement de cette promesse de campagne du président Félix Tshisekedi. Conformément à notre constitution, la gratuité de l'enseignement fondamental doit être une réalité, avait déclaré M. Tshisekedi lors de son discours d'investiture le 24 janvier, dénonçant le fait que les parents d'élèves doivent payer le salaire des enseignants. Mercredi, le ministre par intérim de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Emery Okundji, a annoncé devant la presse la suppression de tous les frais de scolarité dans tous les établissements publics d'enseignement de l'éducation de base. Selon le Partenariat mondial de l'éducation, 3,5 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. Cécile Chiyombo, enseignante depuis 29 ans, a dit que la prise en charge des enseignants par les parents a avili l'enseignant. Elle estime que la gratuité est possible, mais exige des préalables, dont un barème spécifique qui doit être donné à l'enseignant pour qu'il travaille dans des conditions acceptables.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis ce jeudi d'agir contre quiconque se serait rendu coupable d'actes répréhensibles durant la collecte de fonds pour sa campagne en vue de la présidence de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. M. Ramaphosa, qui a succédé à Jacob Zuma à la présidence de l'ANC en décembre 2017, puis du pays, a promis à maintes reprises d'éradiquer la corruption. Mais un an après avoir conduit son parti à la victoire aux législatives de mai 2019, il est confronté à des interrogations sur le financement de sa campagne, très disputée, pour devenir président de l'ANC. Aux Comores, c'est la polémique autour de la santé de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, principal opposant du président Assali Assoumani, empoisonné depuis plus d'un an. L'avocat de l'ex-président âgé de 62 ans tente depuis trois semaines d'obtenir une évacuation sanitaire d'urgence pour son client, mais en vain. Cette demande d'évacuation à l'étranger ressemble à un moyen d'échapper à la justice, souligne sous couvert d'anonymat un magistrat. Le procureur de la République assure de son côté que l'ancien président ne risque pas de mourir dans l'immédiat. Le président du Mozambique, Philippe Nwasi, a été reçu ce jeudi au Kremlin par Vladimir Poutine, une visite qui s'est soldée par la signature d'accords bilatéraux dans les domaines de la sécurité et des hydrocarbures. Cette visite, la première d'un dirigeant du Mozambique en Russie depuis 1997, intervient trois semaines après la signature d'un accord de paix historique entre le gouvernement mozambicain et la RENAMO, l'ex-rébellion devenue principal parti d'opposition. L'élection présidentielle est prévue le 15 octobre et M. Nwasi va briguer un deuxième mandat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France s'apprête à accueillir du 24 au 26 août le sommet du G7 à Biarritz, dans le sud-ouest du pays, mais un rassemblement d'opposants fait craindre des violences. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les dirigeants des sept pays les plus industrialisés se retrouvent avec comme ambition de lutter contre les inégalités. Donald Trump s'est déclaré en faveur du retour au format du G8 avec la réintégration de la Russie. Moscou a été écartée du groupe en 2014 après l'annexion de la Crimée. Exclu de ce sommet, le président Vladimir Poutine a rencontré mardi son homologue français. L'Iran a pris rendez-vous demain avec le président Emmanuel Macron pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire fragilisé par le retrait américain. Washington s'est aussi retiré de l'accord de Paris sur le climat et les ONG du réseau Action Climat boycottent la rencontre car estimant être mise à l'écart. À une vingtaine de kilomètres de Biarritz, de l'autre côté de la frontière en Espagne, des milliers d'opposants ont entamé leur contre-sommet. Ils regrettent ce qu'ils qualifient de démesure du dispositif de sécurité. 13 000 policiers et gendarmes français et 3 000 agents espagnols sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a identifié trois menaces. Les débordements lors de manifestations, l'hypothèse terroriste et les cyberattaques.
Le président brésilien Jair Bolsonaro a lancé ce jeudi une nouvelle charge contre les ONG, soupçonnées d'être responsables des feux de forêt en Amazonie, tout en accusant la presse de faire du tort au pays avec ce qu'il qualifie de psychose environnementale. Si la situation dans la plus vaste forêt tropicale de la planète était très difficile à évaluer, l'Institut national de recherche spatiale a fait état de près de 2500 nouveaux départs de feu en l'espace de seulement 48 heures dans l'ensemble du Brésil. D'après cet institut, plus de 75 300 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 21 août, soit 84% de plus que l'an dernier sur la même période. Selon un collectif d'ONG, 54% de ces feux concernent l'Amazonie. La Corée du Nord a déclaré ne pas être intéressée par une reprise du dialogue avec les États-Unis tant que Washington n'aura pas mis un terme à l'escalade de ses activités militaires hostiles. Une annonce faite alors que l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, est en visite à Séoul. Nathalie Barge.
Nous sommes prêts à entamer des discussions dès que nous aurons des nouvelles de nos homologues nord-coréens, a déclaré l'émissaire américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, après un entretien avec son homologue sud-coréen, Lee Do-hoon. Mais un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a fustigé le récent essai américain de missiles de moyenne portée et le projet de Washington de déployer des avions de combat F-35 dans la région. Nous maintenons notre position consistant à résoudre toutes les questions de manière pacifique par le dialogue et la négociation. Cependant, le dialogue doublé de menaces militaires ne nous intéresse pas, a-t-il déclaré. Pyongyang a procédé ces dernières semaines à des tirs de missiles de courte portée pour contester les exercices militaires conjoints entre les forces américaines et sud-coréennes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est dans la Minute Éco avec Nanit Talani.
Les sociétés minières opérant au Mali ne seront plus exonérées de TVA et bénéficieront d'une période de protection plus courte contre les changements fiscaux selon un nouveau code minier. Cette loi vise à augmenter la contribution du secteur minier à l'économie. Elle raccourcit la période de stabilité au cours de laquelle les investissements des sociétés minières sont protégés des modifications apportées au régime fiscal et douanier. Au lieu de 30 ans, cette protection pourrait être réduite à la durée de vie d'une mine. Le mineur sud-africain Exxaro Resources annonce avoir réalisé une hausse de 42% de son bénéfice le semestre dernier. Le bénéfice net par action a atteint 17,30 rands en fin juin contre 12,22 rands par action un an plus tôt. Les revenus des placements ont atteint 2,92 milliards de rands contre 1,05 milliard l'année précédente grâce à la participation de 21% de la société dans Shen Iron Ore Company, une filiale de Kumba Limited. Pour finir, le président du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, affirme que les négociations entre son pays et le FMI progressent de manière encourageante. Le pays se bat pour se remettre d'une crise de la dette après avoir admis des prêts de 1,4 milliard de dollars en 2016. Le FMI avait suspendu ses aides au Mozambique, provoquant l'effondrement de sa monnaie.
Et Yacouba Ouidraogo nous a rejoint pour parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors Cheikh Cissé conserve son titre de champion de taekwondo aux Jeux africains.
Oui, l'Ivoirien champion olympique est allé jusqu'au bout de ses ambitions dans ces Jeux, tout comme son pays qui a dominé les épreuves de taekwondo chez les hommes et les dames. On fait le point avec Kader Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, présentement sur place à Rabat.
La Côte d'Ivoire a fait fort en taekwondo lors de ses 12e Jeux africains Rabat 2019. Elle a terminé cette épreuve avec 3 médailles en or conquises par Felimata Koulibaly dans la catégorie de moins de 49 kg dames, Seydou Gbané chez les moins de 87 kg hommes et Cheikh Cissé chez les moins de 80 kg hommes. Champion du monde aux Jeux olympiques de Rio 2016, Cheikh Cissé venait pour se succéder à lui-même car il a remporté cette même médaille il y a 4 ans au Congo-Brazzaville.
Il fallait venir défendre le titre et c'est ce que j'ai fait, je me suis donné, je me suis entraîné. C'est pas facile, athlète par athlète, et aujourd'hui voilà, je suis champion.
À handball, l'Angola fait jusque-là un parcours sans faute. Chez les hommes, les Palancas Negras comptent 2 victoires en 2 sorties. Sa dernière victime est le Burkina Faso, battu 27-21. Pour l'ailier angolais Sido Declercq, l'objectif final reste la médaille d'or.
Le match d'aujourd'hui, c'est trop difficile parce que le Burkina Faso les jouait très bien. L'objectif de toutes les nations ici, il faut la gagner. L'Angola, c'est la même chose.
Dans cette même discipline, et cette fois-ci chez les dames, les Angolaises ont passé au Moulinex, les Marocaines battues 45-11. Kader Traoré, Rabat pour VO Afrique.
Fawzi Legja n'est plus le président de la RS Berkane.
L'actuel président de la Fédération Royale Marocaine de Football a passé la main à Hakim Ben Abdellah, précédemment premier vice-président de la Renaissance Sportive de Berkane. Il dirigera le club Berkani pour les 4 prochaines années. Président de Berkane depuis 2009, Fawzi Legja a réussi à remettre le club sur les rails et le faire revenir en première division marocaine en 2012. Depuis, cette formation a remporté la Coupe du Trône en 2018 pour la première fois de son histoire et s'est hissée en finale de la Coupe de la CAF cette année avant de s'incliner devant le Zamalek.
Et pour terminer, Yacouba, dans les transferts en Europe, Neymar est très convoité, mais le PSG tourne les pouces.
Tout à fait, le PSG reste intransigeant sur le cas Neymar. Selon le quotidien catalan Sport, le Barça est prêt à payer 160 millions d'euros pour l'attaquant brésilien. Cette somme pourrait être versée en 2 fois via un prêt avec option d'achat obligatoire, mais Paris rejette toute proposition de prêt et désire un transfert. D'après le quotidien sportif L'Équipe, le Real Madrid a proposé 100 millions d'euros en cash, plus trois joueurs, Gareth Bale, James Rodriguez et Keylor Navas, une offre refusée par les dirigeants parisiens. Le dénouement de cette affaire est attendu d'ici la fin du mercato programmé le 2 septembre. La Juventus Turin serait aussi intéressée.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par les États-Unis. Les États-Unis qui commémorent l'arrivée des premiers esclaves noirs en Virginie à l'époque colonie britannique. Pour l'occasion et 400 ans après, la Voix de l'Amérique revisite cette tragédie humaine qui a marqué à jamais et parfois en lettres de sang l'histoire de ce pays. Nous allons à Norfolk, en Virginie, retrouver Bagassi Koural, envoyé spécial de la VOA. Alors Bagassi, que se passe-t-il aujourd'hui à Norfolk?
Eh bien, à Norfolk, ici à l'université donc, de Norfolk, il y a une conférence organisée par la Voix de l'Amérique en collaboration avec l'université de Norfolk, donc une ville de l'État de la Virginie, dans le sud des États-Unis. C'est ici en Virginie que les premiers esclaves ont été débarqués. On était en fin août 1619, John, lorsqu'un bateau pirate anglais dénommé The White Lion, le lion blanc, a accosté à l'un des ports ici. Il avait à son bord, selon des notes écrites, quelques 20 Africains saisis d'un bateau d'esclaves portugais. Et ce fut donc le départ de 200 ans d'esclavage. Eh bien, c'est donc autour de cette situation que s'est réuni aujourd'hui six experts, notamment des professeurs d'université de Virginie, mais aussi du Texas et de l'État de New York, avec des représentants de la Voix de l'Amérique pour échanger sur les questions, non seulement retourner, revisiter les causes de l'esclavage, mais aussi parler des conséquences donc de ce phénomène-là, la traite négrière qui a duré plus de 200 ans.
Alors, on parle aussi de réparation, Bagassi.
Oui, on a parlé de réparation, vous savez, cette épineuse question, et l'un des panélistes a d'ailleurs reconnu, la question a toujours été évoquée, et elle a toujours été rejetée, notamment par ceux qui pensent que on n'a pas besoin de réparation parce que l'esclavage est fini. Il y a aussi ceux qui rejettent parce que ils se disent que notre famille n'a pas eu à nos ancêtres n'ont pas détenu d'esclaves. Pourquoi vous tenez à ce que on puisse faire partir d'une quelconque réparation? Mais les palinistes ont insisté pour dire que l'esclavage, parce que elle avait une si grande dimension qui a duré 200 ans, plus de 4 millions d'esclaves, a laissé des séquelles pour la race noire et notamment pour les descendants afro-américains, et qu'il était important notamment de procéder à une réparation. Sure. Et la question, bien sûr, quand on parle de réparation, à quoi fait-on allusion? C'est bien, les experts ont reconnu qu'il faut peut-être trouver des bourses d'études pour les afro-américains, parce que l'éducation serait un élément clé. Il y a un qui a parlé de la commission Vérité et Réconciliation, parce que la question de l'esclavage, dit-elle, n'a pas été traitée correctement dans les livres d'histoire et il serait temps, dans le cadre d'une quelconque réparation,
d'en parler,
que la vérité puisse être rétablie.
Alors, très rapidement, Bagassi, les questions des rapports entre Africains et Africains-Américains ont aussi été évoquées.
Oui, la question a été évoquée parce que les panélistes l'ont souligné, il y a une grosse incompréhension entre les Africains-Américains, donc les Américains noirs, comme on dit souvent, et les immigrés venus d'Afrique qui n'arrivent pas à se comprendre parce que souvent les Américains qui n'ont pas voyagé pour la plupart du temps n'arrivent pas à comprendre leurs origines, ne connaissent pas leurs origines, et souvent il y a des tensions, et du coup les panélistes encouragent les deux communautés à se connaître davantage. Ils encouragent les Afro-Américains à retourner en Afrique, à voyager en Afrique pour mieux comprendre leurs frères africains.
Ce mois d'août marque donc le 400e anniversaire du débarquement des premiers esclaves africains en Virginie. Leur arrivée marqua aussi le début de ce qui allait devenir l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. 224 ans de traite négrière. Chris Simkins de VOA nous fait découvrir l'histoire de ces premiers Africains des États-Unis ainsi que celle de leurs descendants. Blanche Sanou.
Il y a 4 siècles, un navire anglais privé, dénommé le White Lion, a navigué dans ces eaux, transportant une cargaison humaine qu'il allait échanger contre de la nourriture et des marchandises.
Le navire est arrivé dans la baie de Chesapeake et a jeté l'ancre ici vers la fin du mois d'août 1619. Il avait à bord une vingtaine d'Africains asservis.
Fondateur du projet 1619, Calvin Pearson arpente les terres de Fort Monroe à Hampton en Virginie. C'est sur cette portion appelée Port Comfort à l'époque que les premiers esclaves africains ont foulé pour la première fois le sol américain.
Les premiers Africains débarqués ici étaient destinés à une vie de servitude. Ils devaient travailler dans les plantations, labourer les champs de maïs, les champs de tabac. C'était une vie qu'ils devaient endurer en sachant qu'ils ne seraient probablement jamais libres.
Cela me donne la chair de poule et un sentiment de tristesse.
Selon l'historien Bill Wiggin, les premiers Africains capturés n'avaient aucun statut légal jusqu'à ce que la colonie de Virginie légalise officiellement l'esclavage à vie en 1661.
Je ne peux pas imaginer l'arrivée dans cette baie de ces individus enchaînés dans un pays étranger et ne sachant rien de l'endroit où ils se trouvaient. On vous sort du navire, puis on vous dit que vous allez travailler ici, vous allez vivre ici.
Les premiers Africains ont été vendus à de riches blancs propriétaires de plantations à Hampton et Jamestown Settlement, qui est devenue la colonie de Virginie. Quelques jours après que le White Lion ait jeté l'ancre en Virginie, un autre navire, le Trésorier, arriva avec quelques esclaves, dont une nommée Angela.
Angela est curieusement la seule Africaine dont le nom soit écrit dans les registres de 1620 et qui est survécue. D'autres noms ont peut-être été mentionnés, mais les documents n'ont pas survécu.
L'esclavage a débuté en Virginie et c'est là que les premières actions visant à y mettre fin ont commencé. Pendant la guerre civile, 3 esclaves en fuite se sont réfugiés à Fort Monroe auprès des troupes de l'Union. Le major général Benjamin Butler déclara que les esclaves étaient des objets de contrebande ou des biens saisis. Cette décision a finalement protégé des milliers de personnes qui recherchaient la liberté et jeté les bases d'une mesure encore plus grande.
Ils ont forcé le gouvernement fédéral et le président Lincoln à publier la proclamation sur l'émancipation qui a conduit au 13e amendement mettant fin à l'esclavage et ouvrant la voie au 14e amendement qui prévoyait la citoyenneté pour les Noirs en 1868.
Fort Monroe est maintenant un monument national, un territoire majestueux que les générations futures peuvent explorer pour s'informer sur l'histoire d'un pays émergent.
Retrouvez VOA Afrique sur Top Congo sur 88.4 FM à Kinshasa.
Au Zimbabwe, les défenseurs des droits de l'homme réclament le maintien des sanctions occidentales contre le pays. Il s'agit d'un pied de nez à la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, qui, elle, a appelé cette semaine à la levée de telles mesures punitives. Les réactions divergent à Harare, comme nous le rapporte Columbus Mavunga, relaté ici par Salwa Jafari.
Le groupe pro-gouvernemental, la Coalition contre les sanctions, campe devant l'ambassade américaine à Harare depuis février. Ses membres se félicitent de l'appel lancé dimanche par la communauté de développement de l'Afrique australe pour lever des sanctions occidentales en vigueur depuis 2002. Rachel Kamangira fait partie de cette coalition. Ils visaient notre ancien président. Aujourd'hui, ils ne dirigent plus ce pays, mais ceux qui souffrent sont des Zimbabwéens ordinaires. L'économiste Daniel Ndelela, lui, pense que les sanctions qui ciblent des responsables zimbabwéens et des organes de l'État on peut avoir avec l'économie en difficulté. La mauvaise gestion du gouvernement est à blâmer.
The idea is that if sanctions are lifted, Certains pensent que si les sanctions sont levées, nous aurons immédiatement des prêts. Mais cela ne se produira pas tant que nous ne rembourserons pas les dettes dues aux institutions financières internationales. Les gens disent qu'il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments, pas de manuels dans leur salle de classe en zone rurale à cause des sanctions. C'est une blague.
L'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions au gouvernement de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, pour fraude électorale et violation des droits de l'homme. Mais depuis 2017, sous le règne du président Emmerson Mnangagwa, la situation s'est aggravée selon les militants des droits de l'homme. L'activiste Tatenda Mombeyarara dit avoir été enlevé et battu la semaine dernière par des membres des forces de sécurité, une accusation qu'il nie.
Il serait erroné pour tout organisme ou institution de supprimer les sanctions contre le tort qui a été fait. Les sanctions ont pour but d'améliorer la situation des droits de l'homme au Zimbabwe. En réalité, la situation s'est aggravée. Nous nous trouvons dans une situation bien pire. Donc, si nous obtenons des sanctions en raison des violations des droits de l'homme, ces sanctions devraient être renforcées. C'est ce qui devrait se passer.
En mars, les États-Unis ont prolongé d'un an les sanctions à l'encontre du Zimbabwe en invoquant les restrictions imposées par le gouvernement à la liberté de la presse et contre les activistes. Pendant ce temps, les autorités refusent d'autoriser les manifestations contre le gouvernement Mnangagwa pour sa gestion de l'économie.
Le premier ministre britannique Boris Johnson fera ses débuts dans la cour des grands de ce monde au sommet du G7 qui s'ouvre samedi en France. Il va tenter de donner une image positive au Brexit et espère pouvoir négocier un accord commercial avec les États-Unis. La lune de miel sera de courte durée avec toutes les craintes d'une sortie de l'Union européenne sans accord. À Londres, le reportage de Henry Richwell avec le récit de Michel Joseph.
De longs retards dans les ports et aéroports, des pénuries de produits frais, de médicaments et de carburant, des révoltes et manifestations avec un possible retour de la violence en Irlande du Nord, ce sont là les scénarios apocalyptiques du gouvernement britannique sur ce qui pourrait se passer si la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne sans accord à la fin octobre. Le document divulgué aux médias britanniques a été écrit il y a 3 semaines. Pour le Premier ministre Boris Johnson, ce document est simplement obsolète.
Il y aura peut-être des obstacles sur la route, mais nous serons prêts le 31 octobre, avec ou sans accord. Bien sûr, pour l'instant, nos amis et partenaires de l'autre côté de la Manche sont un peu réticents à changer de position, mais je reste convaincu qu'ils le feront.
Bruxelles affirme que Londres n'a pas proposé de solution juridiquement faisable entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Boris Johnson ne veut pas d'un backstop, cette clause de sauvegarde, qui doit prévenir le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit. Cette semaine, il se rendra en Allemagne et en France pour des entretiens avant le sommet du G7 samedi à Biarritz en France. Tim Oliver, de l'Université de Loughborough, à Londres.
This is part of a strategy to make it look like...
Cela fait partie d'une stratégie pour donner l'impression qu'il est vraiment sérieux au sujet d'un Brexit sans accord. Nous saurons si c'est vrai à la fin septembre. À cette date, nous allons commencer à voir si la Grande-Bretagne va demander une prolongation ou appeler à des élections générales, si Boris Johnson va devoir rebrousser chemin ou faire un autre mouvement. Il n'en est qu'aux premières phases de sa lune de miel.
En cette période, le dirigeant britannique lorgne de l'autre côté de l'Atlantique pour trouver un nouveau partenaire. Il va rencontrer pour la première fois le président américain Donald Trump au sommet du G7. Les deux hommes ont déjà dit vouloir un accord commercial rapide. D'autres leaders du G7 craignent l'onde de choc d'un Brexit sans accord et diront probablement au nouveau Premier ministre britannique qu'il est sur la mauvaise voie. L'analyste John Curtin, du groupe de recherche sur le G7 à l'Université de Toronto.
Tout le monde dira, regardez Boris, avez-vous perdu la tête? L'économie britannique est en train de plonger dans une croissance négative.
Mais comme Boris Johnson est sur plusieurs fronts en même temps, il est peu probable que d'autres leaders du G7 arrivent à le persuader de changer de cap. Selon les analystes, sa stratégie est d'espérer des signaux à la dernière minute de l'Union européenne, sinon blâmer l'intransigeance de Bruxelles pour le chaos d'un Brexit sans accord.
Et c'est la fin de cette édition mise à nom de par Firmin Max Koyawida. Patrick Dea était à la console. John Lyndon vous a présenté ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.